Alphonse Allais, une vraie poire. Tout à coup, ce gros petit homme joufflu, qui n'avait pas desserré les lèvres depuis une heure qu'il était devant moi, poursuivit ainsi, à voix haute, son histoire commencée sans doute intérieurement. Vous voyez bien que ça ne pouvait pas durer comme ça, plus longtemps. Et comme il me regardait, je crus qu'il était de la plus élémentaire courtoisie, de sembler m'intéresser. Ça ne pouvait pas durer plus longtemps comme ça, manquis-je, non sans sollicitude. Mais non, mille fois non, et à ma place vous en auriez su tout à fait autant. Oh, je ne sais pas trop, fis-je par esprit de taquinerie aussi, pour pousser mon interlocuteur à de plus précises confidences. Mais vous auriez agi, riposta le gros petit bonhomme joufflu, comme vous auriez cru devoir agir, et moi, j'ai agi comme j'ai cru devoir agir. Et la preuve que j'ai raison d'agir ainsi, c'est que je m'en trouve admirablement de cette détermination, aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue moral. Tenez, je suis à l'heure qu'il est un gros petit bonhomme joufflu, n'est-ce pas ? Eh bien, l'année dernière, à la même époque, j'étais un mince petit bonhomme, sec. Et au moral, donnez aussi une comparaison. Mon âme, l'année dernière, ma pauvre âme, n'était pas à prendre avec des pincettes. Et aujourd'hui, on en mangerait sur la tête d'un teigneux. Alors vous avez bien fait d'agir ainsi. Mais je suis heureux d'avoir l'approbation de l'homme d'esprit comme vous. Devant cette petite déclaration flatteuse, mais si juste, je crus un instant que le petit gros homme joufflu était au courant de ma personnalité. Légère erreur vite reconnue. J'avais fini par m'intéresser aux événements passés sous silence par mon voisin. Tel le lecteur tant passionné par un feuilleton, de rencontre qu'il en recherche le début, sans tarder. Mon bonhomme ne se vit pas autrement tirer l'oreille et tomba bientôt dans son habile panneau, Pleyel. Dès mon arrivée à Paris, dit-il, lesté d'un joli petit patrimoine à ses rondelets, je fus tout de suite remarquable par le grand nombre de mes amis et de mes maîtresses. Avez-vous jamais vu une pelletée de neige fondue sous le soleil de Messidor ? M'oserais l'affirmer. C'est fâcheux, car vous auriez ainsi une idée de la rapidité avec laquelle se volatilisèrent mes or et mes argents au double jeu de l'amour et de l'amitié. Un beau jour, mon notaire, qui est un réputé farceur, m'écrivit que j'avais encore, au nom soin de sa caisse, une belle pièce de 7 francs, de 72 francs, et quelque chose, le tout à ma disposition. Voyez-vous ma tête d'ici ? Ah oui, comme si j'y étais. Eh bien, vous vous trompez du tout au tout. Car en post-scriptum, mon joyeux tabellion, m'annonçait que ma vieille horreur de tante blanche venait de claquer, m'instituant son seul héritier pour embêter les autres. Joie de mes amis, délire de mes maîtresses, cette joie, ce délire me parurent provenir de mobiles louches. Était-ce bien pour moi que ces gens se réjouissaient ? Serait-ce pas uniquement pour eux ? Un léger examen me confirma dans la probabilité numéro 2. Et c'est alors que je pris la viérile attitude dont il a été question plus haut. Ah oui, nous y voilà. Oui, je fis mon compte. J'avais 27 amis et 18 maîtresses, tous en apparence plus charmants, plus dévoués, plus désintéressés les uns que les autres. Dès que j'entrais quelque part, « Tiens, voilà Émile, viens que je t'embrasse, mon petit Mimile. Bonjour, Émile. Et c'étaient les poignées de main et des bécots, comme s'il en pleuvait. Je m'amusais à établir le prix de revient de ces marques d'affection. Une poignée de main me revenait, l'une dans l'autre, à 2,75 francs. Un bécot à 11,50 francs. Ça n'a l'air de rien, mais à la fin de l'année, avec ce train de maison, on n'a même plus de quoi donner, 3 francs à son facteur. Un rayon, fis-je d'une voix forte. Et à partir de ce moment, tous les jours que Dieu fit, et il en fait le bougre, comme dit Narcisse le mot, je saquais tantôt un ami, tantôt une maîtresse. Et allez donc! Oh, je n'agissais pas à l'aveuglette. Je m'étais mis en tête de conserver de cette tourbe qu'un ami et une amie, le meilleur et la meilleure. J'employais le procédé dit sélection par élimination. Vous saisissez comme un huissier. Chaque jour, c'était la plus fripouille de mes camarades ou la plus rose de mes hommes, bonnes amies, que j'exécutais froidement. Si bien qu'au bout de 43 jours, je n'avais plus à mon actif qu'un bonhomme et qu'une bonne femme. Mais c'est de là la crème des crèmes. Un garçon fidèle, incapable d'une trahison, m'adorant, et toujours prêt à se ficher l'eau pour moi. Une fille exquise, folle de moi, ignorante de questions d'argent, en un mot, m'aimant pour moi-même. Deux perles, quoi. Oui, deux perles du plus pur Orient. Alors je l'ai prise avec moi et nous vivrons, tous les trois, dans ma petite propriété, comme de véritables coqs en plâtre. Mais au moins votre ami s'entend-il bien avec votre petite camarade? Dans la perfection. Encore pas plus tard qu'hier, je les ai trouvés couchés ensemble.